Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer, vous le savez, de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur Le Gratin Sarah Lavoine Poniatowski. Vous pourrez retrouver Sarah et lui faire d'ailleurs pourquoi pas un petit coucou sur son compte Instagram où elle est active, Sarah Poniatowski, et puis pourquoi pas aussi directement via l'Instagram de son entreprise, la fameuse maison Sarah Lavoine. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode sur le site du gratin www.le-6gratin.fr. Ça faisait longtemps pour tout vous dire que je voulais avoir sur le podcast une personne du monde de l'architecture d'intérieur, pas toujours facile à trouver, et là en l'occurrence avec non seulement un studio d'architecture d'intérieur mais aussi maintenant le grand succès de sa marque de objet lifestyle, Sarah Lavoine était la candidate parfaite pour le gratin. Sarah n'est pas une femme comme les autres, vous allez voir, et je peux vous garantir que vous allez apprendre plein de choses. Elle fonde son studio d'architecture alors qu'elle est à l'époque tout juste jeune maman. Avec son bébé sous le bras, elle parcourt les chantiers et se construit peu à peu un nom. Environ 15 ans plus tard, Sarah est à la tête d'un studio d'architecture et qui a élargi son activité maintenant en marque de mobilier d'intérieur et d'accessoires, la fameuse maison Sarah Lavoine donc, regroupant une soixantaine de collaborateurs. Avec Sarah, on a discuté de vocation, la sienne bien sûr, mais aussi de créativité, de l'importance de s'entourer des bonnes personnes, de la conciliation entre le métier d'entrepreneur et l'âme de créateur, ou encore de ses inspirations. Vous remarquerez que cette interview est beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée. Je dois avouer que c'était pas prévu initialement et que c'est entièrement de ma faute pour tout vous dire. Je suis arrivée avec une bonne demi-heure de retard à notre rendez-vous et Sarah avait malheureusement une obligation qu'elle ne pouvait décaler. Bref, ça sera short and sweet, comme ils disent aux US. On va dire que cet épisode est un concentré de Sarah Poniatowski. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Sarah Lavoine Poniatowski. Bonjour Sarah, je suis ravie de vous accueillir sur Le Gratin.
Bonjour, merci, je suis ravie d'être là.
Eh bien écoutez, merci d'ailleurs de me recevoir dans vos bureaux qui sont magnifiques, évidemment.
Oui. Tout n'est pas très rangé, mais
non, mais écoutez, ça fait partie du charme. Je voulais commencer, si ça vous va, Sarah, en fait, avant de commencer à rentrer dans toutes vos aventures entrepreneuriales, par commencer tout simplement par le début, et notamment parler de votre enfance, de là où vous êtes née, de revenir aux sources finalement. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu comment était la petite Sarah Poniatowski, de quelle famille elle venait, voilà. Qu'est-ce qui vous habitait quand vous étiez plus jeune?
J'étais un peu garçon manqué.
D'accord.
Ouais. J'ai pas eu le droit d'avoir les cheveux longs avant mes 14 ans, je crois.
Vous n'avez carrément pas eu le droit?
Non, ma mère voulait pas.
Okay.
Je crois qu'elle voulait un garçon en deuxième, j'étais la deuxième. Et donc ma sœur, les longs cheveux blondes, moi pas du tout. Donc j'étais très garçon manqué, un peu clown. Je rêvais de faire de la magie, je rêvais de plein de choses. Voilà. Et puis non, mais j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais très jeune, mais qui sont toujours bien entendus et qui nous ont ouvert l'esprit à beaucoup de curiosité, à beaucoup de voyages, à beaucoup d'univers qui me nourrissent toujours aujourd'hui et qui me portent, que ce soit l'art, la nature, voilà, des cultures différentes. Et ça, c'est très important dans ma vie.
Alors justement, en fait, j'ai cru voir que votre maman déjà était créatrice de bijoux. Donc la création...
Non. Ah non, pardon, je coupe. Ma mère est décoratrice. C'est ma sœur qui crée les bijoux.
Ah, mais alors voyez, j'ai mal fait mon travail. Ouais. Vous faites bien de m'interrompre. Alors, peu importe à la rigueur, parce que pour moi, ce qui était intéressant, c'était de comprendre que finalement, vous aviez baigné justement dans un milieu de l'esthétique, du beau, ouais, du bon goût, enfin assez jeune, assez tôt. Et cette vocation, finalement, maintenant, vous en avez fait un métier. Ouais. Finalement, est-ce que vous vous rappelez de vos premières émotions un peu et de vous dire que c'était important pour vous? Parce que j'imagine que...
L'intérieur, la maison. En fait, j'ai une maman qui déménageait tout le temps. Donc, elle refaisait toujours des endroits différents. Donc, oui, c'était important. Et je pense qu'elle m'a passé cette névrose-là. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé et j'adore ça, en fait. Il y a des gens, le déménagement, c'est l'angoisse
oui, c'est
pour plein de monde. Moi, au contraire, ça m'excite énormément de refaire des lieux. Donc, en fait, c'est plutôt ça. Je me suis dit un jour, plutôt que de déménager tout le temps, de refaire tout le temps, là, je vais le faire pour les autres. Et j'ai appris avec elle.
Donc, vous avez appris avec elle, vous êtes mis vraiment
jour,
à travailler avec elle.
Ouais, je venais d'avoir ma fille, genre 23, 24 ans, et un jour je l'ai appelée en disant voilà, est-ce que je peux venir travailler avec toi pour apprendre ce métier.
Donc, initialement, en fait, c'était pas forcément non plus quelque chose que vous aviez en tête quand vous étiez toute petite. Vous n'avez pas décidé que vous vouliez faire quoi quand vous étiez
enfant? Je voulais
être
comédienne.
Comédienne,
ouais.
D'accord.
Donc,
et vous avez commencé
cours
à
de
faire
théâtre des... après mon bac, je suis partie aux États-Unis, me faire prendre des cours de théâtre à New York, tout ça, et puis. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi.
Un peu moins sur le devant de la scène, mais du coup, justement, vous contribuez à créer des ouais. objets qui vont pouvoir y être. Et donc, finalement, vous décidez d'appeler votre maman. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Pourquoi est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous vous dites, à 23 ans, finalement, en fait, ce que je veux, c'est ça, c'est retourner dans les traces de ma maman, c'est l'architecture d'intérieur, c'est la déco? C'est ça qui me plaît.
Je sais pas, c'est que j'adorais faire des intérieurs et c'est vrai, comme je disais, je déménageais tout le temps, donc je refaisais, je créais, je changeais, je faisais tourner les meubles. Puis quand il n'y avait plus de meubles à tourner, vous voyez que j'avais fait le tour de toutes les pièces. Voilà, j'avais besoin de bouger, besoin de changer, besoin de nouveautés, besoin de créer autre chose. Et c'est vrai que plutôt que de retourner à l'école, alors que j'étais une jeune maman et que je me suis dit, bon, je vais pas retourner à l'école et j'ai appris sur le tas, j'ai appris sur les chantiers. Mmh. Et elle m'a beaucoup appris. J'ai bossé pendant 2 ans avec elle. Après, j'ai bossé avec un ami architecte. Il y avait une clientèle plus jeune et plus dans mon esprit. Et après, j'ai monté ma boîte.
C'est quand même assez fou. Vous le dites comme ça, de manière très succincte. Mais bon, quand on y pense, vous veniez un peu du secteur, certes, mais quand même, vous n'aviez pas forcément, clairement défini que ça allait être ça. Et puis, vous changez complètement de vie. On passe de comédienne. Je crois que vous avez fait des études en psychologie aussi.
Si, oui.
Voilà. Et ensuite, bam, un peu du jour au lendemain, si je comprends bien.
Ouais.
Vous avez eu peur à un moment donné de prendre ce chemin-là ou c'est quelque chose qui était une évidence pour vous?
C'était pas forcément une évidence, mais je me suis dit qu'il fallait y aller, il fallait commencer. Travailler pour les autres, je pense que c'était pas vraiment mon truc, parce que je pouvais avoir un petit réseau pour faire des maisons et des chantiers, mais quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu es dépendant de leur efficacité.
Ouais,
moi, je suis quelqu'un d'assez exigeant, et donc j'étais toujours dépendante de l'autre et ça me plaisait pas. Donc un jour, je me dis, je vais le faire moi, je vais essayer de le faire moi, je vais me lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, petit à petit, ça a grandi.
Je vois ça. Et alors, si je peux me permettre de vous poser la question, vous étiez déjà maman à l'époque.
Ouais.
Lancer sa boîte seule.
Ouais. Toute seule.
En tant que femme, maman.
Ouais.
C'est quand même pas évident.
Non.
Ça aussi,
mais
ça a été.
Être maman, pour moi, ça n'a jamais été un obstacle. J'ai 3 enfants. J'ai bossé chaque jour jusqu'à l'accouchement. Le jour où j'accouchais, j'étais au bureau et je retournais au bureau une semaine après. Donc, nos jeunes d'aujourd'hui, ils voient ça plus joie parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes. Ils ont l'impression, mais je leur dis, mais c'est pas une maladie d'être enceinte. Hein. Au contraire, ça porte un enfant aussi. Donc, je la trimballais partout, ma fille.
C'est génial.
Ouais.
Et du coup, vous alliez en rendez-vous client, vous avez vu votre fille avec vous
pas forcément, mais je la trimballais facilement. Enfin, je trouve qu'être maman, c'est un plus même. C'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie. Donc,
Je trouve que c'est un très bel exemple parce qu'effectivement, après, c'est pas pour être du tout dans le jugement ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, en fait, on a un peu l'impression, on a tellement sacralisé la maternité que maintenant, en fait, les gens s'arrêtent de vivre quand même globalement quand ils ont un enfant. Et du coup, je trouve ça assez dément de me dire que non seulement vous avez finalement quitté, on va dire, un job qui était quand même, on va dire, un minimum, sécurité, de l'emploi, etc., pour créer votre boîte, alors même que vous aviez un enfant qui avait quel âge à l'époque, en plus?
Elle avait 6 mois.
C'était vraiment un bébé, un nourrisson.
Un bébé, ouais. Mais elle a toujours été très cool.
Heureusement.
Elle l'est toujours, elle a 22 ans.
Et les premiers mois, quand vous vous lancez, justement, à votre propre compte, alors, j'ai bien compris que vous aviez déjà travaillé dans le secteur, donc vous y connaissiez, mais ça ressemble à quoi? C'est quoi, en fait, la différence pour vous d'être à son compte, au-delà du fait que, du coup, c'est votre vision, etc.? Mais concrètement, maintenant, vous devez tout gérer.
C'est une responsabilité énorme. Et surtout les chantiers, quand tu commences par les chantiers, moi j'ai fait au départ que du résidentiel, bah, tu es vraiment au service du client. Donc le plus important, je pense, c'est d'avoir des équipes d'enfer. C'est-à-dire que des artisans, des compagnons, des gens qui travaillent dans la maison. Donc moi j'avais un super électricien, un super maçon, un super menuisier, enfin, des hommes autour de moi. J'étais la seule femme, et assez jeune, donc c'est un métier d'homme en plus. Enfin, c'est un milieu d'homme. Quand tu vas voir le maçon et que tu dis non, bah, alors là, voilà, c'est très technique et le suivi de chantier, c'était pas évident. Et les clients sont jamais contents, c'est jamais en temps et en heure. Enfin bon, c'est compliqué. Mais donc le plus important, c'est vraiment d'avoir des très bons artisans autour de toi. Et des équipes avec qui, des partenaires. Donc, sur qui tu peux compter, te reposer. Donc, ça, c'est ce que j'ai eu. Et ça c'est. Voilà, je n'aurais pas réussi autrement. Et après, de savoir déléguer, de savoir grandir. Et voilà, donc, après, maintenant, j'ai des équipes super. Et,
bien sûr, bah justement, on va en parler.
Parce que seule. Hein. J'aurais jamais développé ce que j'ai développé en
évidemment,
étant seule.
Et là, je crois que vous êtes une cinquantaine de collaborateurs.
60, ouais.
60 maintenant. Ouais. Donc, c'est dingue à quel point ça a plus que poussé, quoi. Ça a décollé. Mais ça a mis du temps. Et ça, je trouve ça plutôt bien aussi de voir que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts.
Mais il y a plusieurs activités. C'est-à-dire que l'agence d'archi, c'est ce que j'ai créé vraiment au départ en 2002. Et ça a pris du temps. Enfin, ça a pris du temps. Non, j'ai toujours travaillé petit à petit. Et voilà, et ça a tourné. On a grandi petit à petit. Après, ce qui a vraiment explosé, c'est quand on a créé la marque Maison Sarah Lavoine. Et là, elle a plus, elle a 8 ans. Donc, c'est assez récent malgré tout.
Pour rester quand même sur le domaine de l'architecture d'intérieur, quand vous vous lancez au début, donc vous êtes seul.
Oui.
Maintenant, vous avez quand même un certain nombre de collaborateurs. Des entreprises, des jeunes femmes, des hommes même, qui se lancent dans le secteur de la décoration d'intérieur ou de l'architecture d'intérieur, il y en a légion. Honnêtement, c'est un secteur quand même sur lequel il y a une compétition qui est colossale. Je ne sais pas si c'est possible que vous répondiez à cette question, mais qu'est-ce qui a fait pour vous votre différence? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à créer un nom, à créer une patte, à créer même une couleur, à faire quelque chose en fait de complètement différent? Est-ce que c'est juste finalement votre créativité?
D'abord, tu as un style, en fait, tu imposes ton style au fur et à mesure et puis tu le nourris, et même s'il évolue et il change. Entre mes premiers et tout premiers chantiers et aujourd'hui, je ne ferai pas exactement les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est un secteur où il y a beaucoup de monde. Et en même temps, par exemple, moi, j'ai des amis qui me demandent quand je ne veux pas faire leur chantier parce que je ne veux pas travailler pour les amis. Qui peux-tu me conseiller? Il n'y a pas forcément non plus. Enfin, c'est compliqué, c'est un métier compliqué. Qu'est-ce qui a fait? Je pense que, comme c'est très contraignant le chantier, hein, c'est, en général, même dans un couple, tu peux t'engueuler quand tu fais une maison, un chantier.
Ah oui, bien sûr.
Le retard, non, l'angoisse, c'est beaucoup de stress. Ouais. C'est d'être très présent pour les clients et d'être très à l'écoute et surtout très organisé. C'est-à-dire que moi, quand je leur disais, j'avais jamais de retard. Je supporte pas.
Ce qui est rarissime.
Ouais, mais c'est important de tenir ses délais, de tenir ses engagements, de tenir ses prix, de pas partir dans n'importe quoi, et de bien faire surtout, et d'avoir la qualité.
Donc en fait, si je comprends bien, derrière le côté créatif, il y a quand même une vraie exigence, il y a une vraie rigueur très forte. Et finalement, le combo gagnant, si je comprends bien, en tout cas pour vous, c'est évidemment d'être très créative sur le style, mais derrière, d'être absolument irréprochable sur
c'est
l'exigence.
C'est obligé, sinon on te rappelle pas, sinon, comme ça, métier de bouche à oreille. Bah sinon, t'as pas d'autre chantier. Hein. Si ça se passe mal, t'as une mauvaise expérience, ils vont pas te recommander. Donc, ouais, c'est très important. L'exigence, elle est ultime. Et puis, bon, tu construis une maison, hein, c'est pas...
Ouais, faut que ça soit solide.
Ouais.
Un petit peu. Si on parle maintenant, justement, du style, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'inspiration.
Ouais.
Je suis assez fascinée par ça. Et alors, vous, là, on est dans votre bureau, bah, on voit que de l'inspiration, il y en a partout. Il y a des bouquins. Alors, moi, j'aime bien ce côté, justement, un peu bordel, mais qui fait que, bah voilà, on sent qu'il y a vraiment une personne derrière. C'est quoi, finalement, vos plus grandes inspirations? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui peut vous donner une idée?
Un coucher de soleil m'inspire énormément, je ne m'en lasse jamais. J'adore ça. J'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de la lumière naturelle. Donc la nature m'inspire énormément et l'art. Voilà, les artistes, les photos, les expositions, un musée, tout ça me bouleverse assez à chaque fois. Mais voilà, je crois qu'il n'y a jamais un ciel pareil ou qu'on soit beaucoup de soleil à Paris ou dans le sud ou en Asie. Enfin, je me perds dedans. En fait. J'adore. Je m'évade complètement et après, ça donne. Mais bon, tout peut être inspiration.
Bien sûr, bien sûr. Mais justement, ce que je trouve pas facile, c'est que tout peut être inspiration. Et en même temps, quand on doit créer, bah, parfois, on est obligé de trouver l'inspiration. Quoi. Et
oui, donc, bien sûr. Mais après, on se donne des thèmes. Bah, maintenant, on est plus structuré. On est moins libre. Enfin, on doit sortir des collections à tel jour, telle date. Enfin, c'est plus compliqué qu'avant. Il y a un peu moins de liberté. Mais malgré tout, je me souviens, un jour, ma grand-mère avait une paire de boucles d'oreilles vraiment toc. Enfin, voilà. Et je dis, oh, elle est trop belle. Et on voulait en faire une table. Enfin, tu vois, tout peut être vraiment inspirant. Faut pas se limiter du tout.
Ouais, c'est ça. Faut pas se limiter. Vous avez besoin, vous, pour, je sais pas, quand vous sortez une collection, alors plutôt dans le cadre de Maison Sarah Lavoine, vous avez besoin de trouver un temps un peu plus lent, un temps pour vous, pour l'inspiration, ou au contraire, bah, c'est ce que vous disiez, vous butinez en permanence au quotidien. Vous êtes plutôt quel style, on va dire, de...
Un mélange des deux. En fait, si j'étais toute la journée au bureau, je pourrais pas non plus. Donc, j'ai besoin de m'évader du bureau et d'aller marcher, d'aller regarder les toits de Paris ou d'aller regarder une expo ou un jardin ou une balade. Mais il y a toujours, je ne m'arrête jamais, même quand je pars en vacances, je suis incapable d'aller dans, par exemple, je connais pas les Maldives, aller sur une plage où il y a rien à faire, c'est pas mon truc. Donc, je préfère aller à Bali ou au Maroc où il y a des tonnes d'artisans qui travaillent, qui ont un savoir-faire extraordinaire. Et là, voilà, et je travaille tout le temps. En fait, ça j'adore ça. C'est une passion, donc c'est pas, c'est vraiment une passion.
Oui, vous le ressentez pas du tout comme un travail, quoi, si
pas
je comprends bien.
Pas si après, évidemment, il y a des responsabilités.
Voilà, mais je veux dire, pour la partie inspiration.
Pour la partie créative.
Et comment vous avez, alors je suis désolée, hein, je vais entrer dans les détails qui vont peut-être ennuyer les gens, mais moi ça m'intéresse, sur l'aspect vraiment pratico-pratique. Je trouve ça toujours très difficile, en fait, quand on est dans la rue, tout d'un coup, se dire « Ah mais attends, j'adore ce là, je sais pas, il y a même un tag sur le mur, j'ai envie de le prendre en photo ou un truc comme ça ». Comment est-ce que vous arrivez finalement à garder finalement toutes ces inspirations? Parce que si jamais vous en avez tout le temps au quotidien, c'est quoi? Vous êtes plutôt calepin? Vous êtes plutôt téléphone aujourd'hui?
Malheureusement, j'adorais. J'ai très longtemps gardé mon calepin et j'avais un cahier que j'adorais et tout ça. Mais là, non, c'est fini. C'est téléphone.
Maintenant, c'est téléphone et tout est dans le téléphone.
Ouais, ouais.
Bon. Voilà. Je sais pas si c'est mal. Hein.
De toute façon, c'est pratique. Hein. Une photo, machin, tu prends. Enfin, voilà.
C'est sûr. Très bien.
Mais le téléphone ou la photo, enfin, on est dans un monde quand même très instantané et des contenus non-stop. Nous, ce qu'on a nos créations, c'est elles sont plutôt dans une démarche pérenne, à long terme. On n'est pas dans cette démarche de fast fashion du tout.
Complètement. Bah, justement, une question qui m'intéresse aussi, c'est le lien entre l'entrepreneuriat et la création. Et donc, bah, finalement, vous êtes créatrice, mais vous êtes aussi à la tête maintenant d'une boîte de 60 personnes. Donc, c'est énorme. Et souvent, en fait, les profils créatifs ont peur de devenir entrepreneurs. Je ne sais pas si vous, ça a été votre cas, mais c'est assez difficile, je trouve, ce shift entre le moment où on se dit, bah, je peux créer quelque chose de mes mains, je peux, moi, organiser le chantier, je peux aller trouver ces artisans, etc. Mais par contre, quand il faut commencer à déléguer, quand il faut commencer à construire, bah, finalement, c'est un peu un autre métier. Et très souvent, ce n'est pas apprécié des créatifs qui veulent faire les choses eux-mêmes.
Ouais.
Est-ce que vous, ça a été, à un moment donné, une difficulté ou une crainte, peut-être, ce passage du statut, on va dire, d'indépendant à vraiment la création d'une marque?
Alors, je dois dire qu'il y a des rencontres dans la vie qui sont importantes, des rencontres humaines. Et Edouard Renouvier qui a passé une tête et qui a fait « Oups !» qui est sorti, qui est mon directeur général. On est un vrai binôme. J'aurais jamais développé sans lui. C'est-à-dire qu'il s'intéresse autant à la création que toute la structure de la boîte et vice-versa. Il est plus sur la structure et moi plus sur la création. Mais on échange non-stop et donc ça nous donne une vraie force. J'aurais jamais développé seul.
Et ça, vous l'avez rencontré tôt dans votre histoire?
Non, ça fait 7 ans qu'il est là.
Ça fait 7 ans qu'il est là. Donc
mais
quand même, vous êtes
lancé. Depuis l'expansion, grâce à lui, voilà, on a vraiment développé la boîte.
Mais ça, c'est hyper important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils doivent tout faire seuls et qui se disent, avoir un employé, enfin un peu comme des larbins finalement, qui sont là.
C'est pas possible,
mais ça marche pas.
Parce que plusieurs cerveaux, on est plus fort et puis on se nourrit quand t'es down, quand t'es up et on échange toute la journée. Et pareil pour le studio, pour l'archi, j'ai Florent qui travaille avec moi depuis 15 ans. Lui, il est là depuis vraiment le début quasiment. Et il me connaît par cœur, donc je peux leur laisser les clés de la maison et j'ai aucune angoisse. Et puis un mot, un geste, mais on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Et ça, c'est très important de savoir déléguer parce que tu ne peux pas monter une entreprise. Et en revanche, il faut garder les pieds sur terre. Et moi, il n'y a pas un truc qui sort d'un produit ou un chantier qui sort de la maison sans que j'ai validé ou que j'ai vu. Donc,
quand même. Vous n'avez quand même pas eu un moment où on se dit « je suis en train de lâcher le contrôle ». Quand on est créateur, souvent, c'est un peu le cas. Et notamment, quand on commence à déléguer, c'est assez dur. Moi, je sais, j'ai une boîte aussi. Et ça a été très dur, en fait, ce moment-là. Mais maintenant, je l'ai fait.
Non, si parfois, quand on se dit avec Edouard, mais on ne connaît pas ce produit, ou on ne connaît pas ce machin. Et là, on se dit, oh là là, ça ne va pas du tout. Donc, on a vraiment restructuré tout pour que... Là, on sort, par exemple, de 2 heures de réunion de collection où on valide ensemble tous les produits. Il faut garder... faut rester maître quand même de choses, mais en faisant confiance et en déléguant et en nourrissant les autres. Moi, je donne toujours... l'impulse, je sais pas comment dire, le
ouais,
ouais.
Enfin,
des points de départ d'une collection. Et puis après, tous mes jeunes créateurs et designers, ils bossent, ils font un travail formidable.
Ouais, ils vont réussir à se l'approprier, ouais, à en faire quelque chose. Comment est-ce que vous avez rencontré votre associé?
Il est venu un jour casser un verre dans ma boutique. Il est très maladroit.
Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi ça.
Non, mais je sais pas, on s'est rencontrés. Et voilà, et moi, c'était vraiment au moment où je cherchais quelqu'un pour m'épauler parce que je me disais que je n'allais pas pouvoir continuer justement à tout gérer seule. Et puis voilà, la vie est bien faite. Et donc, il est venu. Après, on s'est reparlé. Il est venu. Après, il a renversé un verre d'eau sur toutes mes factures, sur mon bureau.
J'ai dit quelqu'un d'adroit.
Il est très, très adroit. Il était gaucher. Et je lui ai proposé le poste.
Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent justement
comment faire. On grandit ensemble, on apprend plein de choses ensemble. Mais vraiment,
Il avait déjà une expérience de ce type ou pas?
Non,
du tout?
Non, pas du tout.
Donc, vous avez vraiment complètement
la pub,
appris.
Les médias. On grandit ensemble.
C'est hyper intéressant. Un autre sujet qui m'intéresse, c'est le fait que vous ayez plusieurs activités en même temps. Parce qu'on l'a dit un peu en filigrane, finalement, vous avez Maison Sarah Lavoine, donc, qui est une marque où vous sortez des collections, notamment, alors maintenant, dans plein de domaines, j'allais dire,
on
déco,
prêt-à-porter maintenant aussi.
Prêt-à-porter,
qui marche super bien.
J'en suis sûre,
Non, mais c'est pareil, il n'y a pas vocation à devenir une marque de prêt-à-porter ou de mode. C'est une vraie marque de lifestyle et d'art de vie global. Et les collections prêt-à-porter sont très courtes. Enfin, ce sont des pièces assez intemporelles, bien fabriquées, de qualité, faites en Europe. Et l'idée, c'est que finalement, on s'habille toujours un peu... C'est les mets essentiels. Voilà.
Mais vous avez cette activité en parallèle donc, du cabinet d'architecture d'intérieur, du studio. Le fait d'avoir ces deux activités... J'ai compris que c'était arrivé un petit peu naturellement parce que c'est vous, c'est votre personnalité, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare finalement d'avoir quand même vraiment deux boîtes en parallèle, même si ça se recoupe.
Oui, mais elles se nourrissent l'une l'autre. Si on dessine, quand on fait l'hôtel Le Roc, le 5 étoiles qui n'est pas très loin d'ici à Paris, et qu'on dessine tout le mobilier pour l'hôtel, des luminaires, des lampes, des chevets, des lits, voilà. Après, nous, on les reprend et on les travaille différemment pour pouvoir les mettre en collection. Donc, en fait, ça se nourrit vachement. Et maintenant, vice-versa, on passe de l'espace à l'objet, de l'objet à l'espace, en fait. Et donc, ça, c'est super intéressant.
D'où est venue l'idée, initialement? C'était dans le cadre, justement, de quelque chose que vous faisiez dans le cadre du studio. Et ensuite, vous vous êtes dit, il faut que je fasse les meubles.
Au départ, oui, parce que même pour des résidentiels, on dessinait des canapés, du mobilier, des choses comme ça. Et puis, finalement, c'est dommage. Donc, j'avais pris un premier showroom où j'avais mon bureau au tout début, quand on était trois, rue Saint-Roch, et puis petit à petit, on l'a transformé, on a un poil industrialisé l'affaire.
Non, mais c'est super, et maintenant je crois qu'il y a...
On a 10 magasins, 120 points de vente dans le monde.
C'est devenu une vraie marque.
C'est devenu une vraie marque.
Exactement.
Ouais. C'est vraiment chouette, je suis très contente de...
Comment
c'est un vrai travail d'équipe.
Ça, j'imagine, ouais. Justement, parce que, mine de rien, vous êtes sur les deux, de votre côté, si je ne me trompe pas. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à répartir votre temps? Est-ce que vous l'avez formalisé? Est-ce que les deux se recoupent tellement que, finalement, vous bossez un peu... vous papillonnez entre les deux?
Entre l'archi et la marque, les produits? Oui, je papillonne entre les deux, en fait. Je fais moins... Et d'ailleurs, maintenant, on fait beaucoup moins de suivi de chantier. On fait encore un peu de résidentiel, mais moins. Et donc, c'est vrai qu'on fait plus de la conception.
Ouais.
C'est pas mal. Et puis après, on a le bon rôle. On arrive et dit non, ça c'est pas très bien fait.
C'est
là. Ça c'est pas très bien fait.
Vous êtes dans le rôle sympa uniquement dans le stylisme et tout. Vous déléguez la partie chantier. Mais quand vous dites que vous papillonnez, c'est-à-dire que dans une journée, là par exemple aujourd'hui, on est un jeudi, vous pouvez très bien commencer la journée en se disant je vais bosser.
Ah non, tout est programmé. Non, tout est à l'heure près, millimétré.
Donc l'agenda est quand même.
L'agenda est hyper chargé.
Ça, je peux imaginer.
Hyper chargé. Non, on a commencé par 2 heures de réunion de collection, produits. Après, je suis avec vous. Après, j'ai un déjeuner. Après, j'ai une réunion de chantier pour un restaurant qu'on fait à Paris. Après, une réunion de finances. Enfin, non, les plannings sont super chargés.
Mais par contre, qui peuvent être entre les deux. Sur les deux thématiques.
Complètement. Dans la même journée, tu passes d'un sujet à l'autre. Et en même temps, tu regardes tes mails, les 3D qui arrivent pour tel chantier ou tel machin.
Vous plaît, ça, d'avoir autant de choses à faire? Moi, je suis comme vous. Enfin, je pense que vous êtes comme ça. Moi, j'adore avoir trop de choses à faire et finalement ne pas avoir le temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur et qui se disent, mais est-ce que c'est vraiment ça, la vie d'entrepreneur, de juste, en fait, bosser non-stop?
Mais c'est passionnant parce que là, les journées ne sont jamais les mêmes. Et moi, j'ai des amis qui ne travaillent pas, par exemple. Mais elles se noient beaucoup plus dans un verre d'eau que moi. Moi, je ne suis jamais noyée. Enfin,
vous n'avez pas le temps.
Non, mais puis tu dis pas... Tu dis toujours que tu as le temps, finalement, alors que souvent des amis, des gens qui ne travaillent pas disent « Ah ben non, je suis désolé, j'ai pas le temps. » Il n'a pas le temps parce que...
Ouais, ouais, c'est ça.
Alors que moi, je trouve toujours le temps de caler un truc, de penser à quelque chose, de, voilà, même entre deux portes. Mais oui, non, j'adore ça. Je serais incapable de me réveiller le matin en me disant, bon, alors, qu'est-ce que j'ai ce matin? J'ai rien, donc non, ça c'est, serait mon angoisse totale.
Vous arrivez quand, enfin, vous arrivez, vous avez besoin quand même de moments de pause de temps en temps, des vacances, des moments où vous coupez,
ouais,
des choses comme ça.
J'ai un refuge, oui, j'ai un endroit à moi où je m'échappe et même si je bosse à distance, hein, mais oui, bien sûr.
C'est important parce que c'est sûr qu'avec ce rythme, je peux imaginer que vous avez.
Et puis il y a les enfants quand même qui prennent beaucoup de temps et là, ça serait peut-être la seule frustration de se dire tu passes pas assez de temps ou tu rates des choses. Je suis pas une maman d'école, par exemple. Je ne fais pas la sortie des classes. Enfin,
oui, mais est-ce qu'ils aimeraient ça?
Bah, je pense, oui, forcément, il y en a qui... Enfin, ouais. Et donc, parfois, ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et je me dis, oh, le temps passe vite, mais je me rattrape autrement. J'arrive toujours à partir en vacances avec eux, sur toutes les vacances. Il y a tellement de vacances. J'arrive toujours à voilà, dégager des moments.
Justement, cet équilibre de vie pro-perso, il n'est pas évident pour personne, hein, je pense, encore moins pour les femmes et encore moins pour les femmes qui ont deux activités en même temps, avec plusieurs enfants. Vous mettez quand même quelques barrières, quelques cadres. Je sais que j'ai interviewé plusieurs personnes sur le podcast qui me disaient que pour eux, c'est tous les soirs à 19h, ils rentrent chez eux pour voir leur enfant. Ou certains qui prennent le petit déjeuner.
Ouais.
Ou certains qui, juste le samedi midi, c'est le déjeuner en famille.
Ouais, on a plein de trucs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de moments avec eux. Je rentre jamais du bureau. Enfin, je repasse toujours à la maison. Avant de ressortir, donc je suis toujours là avec eux. Le matin, évidemment, je me lève pour un petit déj avec eux. On fait plein de choses. Et puis, je suis assez organisée. C'est-à-dire que mon bureau est à 3 minutes à pied de la maison et à 3 minutes à pied de l'école. Donc, ils viennent au bureau, ils regardent, ils adorent, ils s'intéressent. Voilà, donc, j'arrive à ça. Et je vous dis, toujours essayer de prendre des vacances pendant l'année et dégager du temps.
Vous parlez de business avec eux ou pas du tout?
Avec Roman, celui qui a 13 ans, il adore.
C'est vrai.
Ouais, il me dit, un jour, maman, tu seras Ikea, mais en plus chic. Je me le souhaite, chérie. Je me le souhaite d'avoir le même développement qu'Ikea.
C'est clair. Non, mais
lui,
c'est
il s'intéresse vachement à la maison. Il est marrant, il est super intéressant. Enfin, ça l'intéresse vachement, le business.
Parce qu'il y a des parents qui ont un peu peur. Enfin, moi, je sais que, par exemple, mes parents étaient dans les affaires, mais ont assez peu parlé de business à la maison. Je pense qu'il y avait un peu un espèce de tabou comme ça. C'était pas pour les enfants. Et en fait, je trouve ça dommage parce que finalement, du coup, ça crée une barrière et on se dit que le travail, c'est un truc horrible. Alors que, en fait, ça peut être génial et vous avez l'air assez passionné.
Ouais.
Donc, je trouvais que c'était intéressant de savoir si vous.
Milo, il va avoir 10 ans, lui, il s'y intéresse un peu moins. Et ma fille Yasmine, elle a 22, elle veut être comédienne. Donc, elle est moins dans le business. Mais Roman, c'est marrant. On a des vraies discussions. Il dit non, ça, c'est pas très Maison Sarah Lavoine, ça machin. Il donne des idées, il appelle Edouard pour lui dire « Tu vous devrais faire ça ». Non, mais j'adorerais qu'il reprenne la boîte. Je pense qu'il serait capable de reprendre la boîte. Il aime ça. Tu sens qu'il a ça en lui, quoi.
C'est
la création et le business.
Ah ouais, les deux en plus.
Ouais, c'est marrant.
C'est hyper sympa.
Ouais.
C'est hyper sympa. Si on revient maintenant au développement, donc on a parlé un peu, on est parti dans tous les sens, mais c'est comme ça avec le podcast. Aujourd'hui, donc, l'activité s'est vraiment développée sur les deux secteurs, mais j'ai quand même vraiment l'impression que la marque Sarah Lavoine, c'est quelque chose qui a pris une ampleur presque sincèrement, que vous n'anticipiez pas.
Je suis d'accord, ouais.
Est-ce que, là aussi, vous pourriez revenir peut-être sur les étapes du développement et quels ont été pour vous les quelques grands facteurs clés de succès? Parce qu'une fois de plus, hein, quand même, des marques de déco, entre guillemets, alors même si j'ai compris que le concept était vraiment du lifestyle, quoi, tout simplement. Mais au-delà du style, qu'est-ce qui, pour vous, a fait vraiment la différence au sein de toutes ces marques qui essayent de se lancer et qui galèrent?
Parce que je pense qu'on offre un produit qui est sincère, qui est juste. On ne part pas dans des prix de... Bien sûr, on est dans du haut de gamme, hein, mais on reste dans du haut de gamme, accessible, de bien faire, de la qualité, un produit éthique le plus possible, assez métissé, intemporel, et que... Finalement, les gens s'y retrouvent et adhèrent. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de... Moi, je suis anti-total look. Mais donc, tu peux te faire plaisir en t'offrant une lampe, une bougie, un vase ou des assiettes. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Tu n'es pas obligé d'aller dépenser des fortunes et t'acheter 3 canapés. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer de plus en plus les accessoires. Là, on va faire de la maroquinerie. Là, on vient de lancer un savon, une crème. Enfin... Voilà, et de pouvoir rentrer là et de voir un univers qui t'inspire et qui te fait du bien. L'idée, c'est quand même mon métier au départ, c'est moi quand on me dit merci, je me sens tellement bien quand je rentre chez moi, mais c'est un cadeau en fait, c'est-à-dire qu'on a réussi le chantier. Et voilà, et c'est être heureux dans son cocon, dans sa maison, c'est important, et surtout en ces temps compliqués. C'est voilà, important quand on rentre chez soi de se sentir bien. Mmh. Et c'est un peu notre, c'est le but de notre vie et de notre boulot.
Et ça, cette vision qui paraît très claire, vous l'aviez dès le début ou elle s'est construite avec le temps? C'est-à-dire que quand vous avez lancé le concept de la Maison Sarah Lavoine, j'ai compris, donc c'était majoritairement autour du mobilier au début, mais est-ce que assez tôt dans votre tête, ça s'est structuré, vous avez dit non mais en fait, on peut en faire vraiment
Mais je pense qu'on a un boulevard encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de marques que ça. Hein. Il y en a des très belles, mais entre Maison du Monde et Ikea, enfin entre du... voilà, et des choses sur plus intouchables,
c'est vrai que sur le on n'est pas très nombreux. Gamme, mais...
Et il nous reste plein de choses à développer. Donc c'est ça qui est aussi amusant.
Et les projets, là, pour les prochains mois,
là,
ou les prochaines années?
Là, on est en train de finir un hôtel à Biarritz, on fait un hôtel sur l'île Seguin, on fait un très beau programme immobilier à Saint-Ouen, le village des Rosiers, on fait un château dans le Bordelais, là, on va ouvrir au Bon Marché, enfin, on fait plein de trucs différents, voilà.
Écoutez, ça fait chaud au cœur, en tout cas, de voir à quel point ça se développe. Et un aspect que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'international. Ouais. Le fait que vous ne soyez pas justement uniquement français.
Ouais.
Vous avez mis combien de temps avant de commencer à vous développer à l'international?
Pas facile, l'international. D'abord, on ne voulait pas, nous, y aller trop vite, parce que tu te brûles vite les ailes et après, au revoir, merci. Mm-hmm. Donc, on voulait être très solide et fort dans notre propre pays d'abord, avant d'y aller. Donc, maintenant, on a un showroom à New York. Et puis après, on a des revendeurs dans le monde, mais l'international, c'est pas si simple.
Non, bien sûr.
Et puis là, en ce moment, j'ai moins envie de sauter dans l'avion toutes les deux secondes.
Je peux comprendre. Et aujourd'hui, vous avez showroom à New York, il y a quand même pas mal de vos distributeurs aussi
à l'étranger,
qui sont
bien
un peu
sûr.
Partout.
Ouais, ouais.
Et donc, ça, ce choix, vous l'avez fait, je trouve ça très intéressant, justement, de manière assez précautionneuse, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on a ouvert des boutiques, de toute façon, il faudrait.
À tour de bras.
On a quand même évidemment regardé Londres, mais tout d'un coup, tu te dis, bon, il y a le Brexit, donc on va attendre de voir ce qui se passe. Donc, on cherche plutôt des revendeurs et des bons partenaires, plutôt qu'à d'aller, nous, trop vite, trop fort. Voilà, il faut être costaud. Hein.
Bien sûr. Et vous disiez justement que ce n'est pas facile, sans révéler des secrets interdits. C'est ce que j'entends beaucoup et je vous dis, moi aussi, j'ai une autre activité en parallèle du podcast qui est que j'ai une marque de joaillerie qu'on a lancée à l'international.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Gemio.
Ouais.
On a lancé à l'international, qu'on a ensuite, on a rebroussé chemin au bout d'un an parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, s'il fallait le faire, il fallait le faire réellement.
Il faut des moyens colossaux.
Énormément de moyens, y investir aussi beaucoup de temps, mettre des équipes sur place. Enfin voilà, on s'est rendu compte
qu'on
ne peut pas être partout. Et donc vous le faites et vous le faites plutôt bien. Pour vous, c'est quoi justement, au-delà de ces conseils, de réussir à vraiment y aller avec force et impact, quelles sont les principales difficultés d'une certaine manière? Parce que, notamment
quand
on... Il y a
un gros avantage aujourd'hui qu'on n'avait pas quand on était petite, c'est qu'il y a le digital. Hein.
Bien sûr.
Et sur l'e-shop, nous, on voit, on marche très très fort à l'international. Donc ça, c'est quand même un très bon moyen de développement, de croissance à l'international. Après... On revoit un peu la façon, le business model pour plus développer le digital et moins les points de vente retail. Et moi, l'idée, c'est pas d'ouvrir une boutique à chaque coin de rue. Donc, on cherche toujours une expérience différente. C'est-à-dire que le lieu doit avoir une âme. À Place de Victoire, on a un resto. À Bordeaux, on a un ami coiffeur. Alors, on crée des lieux et des expériences. C'est pas d'ouvrir à chaque coin de rue des boutiques lambda. Donc, mais après, l'international, c'est vrai que... Moi, j'adorerais. Hein. Moi, j'ai une boutique à Milan, à Tokyo,
c'est
machin,
clair.
Évidemment.
Un prétexte pour voyager.
Ça m'excite plus que d'ouvrir dans je sais pas quelle petite ville. Mais faut y aller doucement. Il faut des bons partenaires. On ne peut pas y aller seul.
Ouais, c'est ça. Il faut se faire accompagner.
Surtout aux États-Unis. Hein, je crois qu'y aller seul, c'est chaud.
Il paraît que c'est très, très dur. Ouais. Il paraît que c'est très dur. Parce que notamment les Américains, malgré beaucoup d'avantages, ne sont pas faciles en affaires.
Pas du tout.
Et que les employés aussi, ce n'est pas facile, apparemment.
Cette voie par le digital. Elle est très forte et très puissante et donc il faut aller vers ça.
Très bien. Comme malheureusement je suis arrivée très en retard à notre rendez-vous, je vais devoir vous quitter dans pas très longtemps. Je sais que vous avez un déjeuner, mais ce que je vous propose, c'est de terminer par les questions que je pose toujours à la fin, qui sont mon petit crible, qui sont des questions un petit peu personnelles, vous allez voir. La première, c'est: est-ce que vous avez déjà vécu un moment vraiment difficile ou un moment d'échec dont vous pourriez me parler, et surtout les enseignements que vous en avez retirés?
J'oublie les mauvaises choses, donc non.
Vous avez bien raison.
Voilà, sinon, non, je ne rumine pas du tout les mauvaises choses, donc vraiment, j'ai cette faculté d'oublier les trucs qui me font du mal.
Très bien. Est-ce que vous avez une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, qui vous plaisent et que vous pourriez nous partager ?
J'en ai plein, j'en ai pas une en particulier, mais je dis toujours qu'il faut oser, il faut se, voilà, on peut se tromper, mais on apprend ses erreurs, donc on est encore plus fort. C'est pas un échec, c'est rebondir mieux et différemment. C'est aussi penser très positif. Un vrai travail là-dessus. J'ai fait un vrai travail sur la pensée positive et la visualisation et tout ça. Donc, pour restructurer un petit peu son cerveau et le reprogrammer et se faire confiance, quoi.
Au niveau des livres, est-ce que, alors je vois qu'ici il y en a beaucoup, mais justement je trouve ça génial parce que ça va sans changer des livres habituels qu'on me dit sur le podcast, je pense, qui sont souvent des livres très un peu business, etc. Et puis alors là, je vois beaucoup de livres d'art. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont particulièrement marqué et que vous recommandez autour de vous? Un livre peut-être qui vous a le plus inspiré?
En tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneuse?
Peu importe, sincèrement, ça peut être en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que créatrice.
La ferme africaine de Karen Blixen. Je suis fan absolue de Karen Blixen. Je trouve cette femme, dans les années 30 quand même, d'un courage et d'une force inouïe dans un pays que j'adore, qui est le Kenya. Donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Et là, dernièrement, j'ai lu le bouquin, la biographie de Phil Knight, enfin l'autobiographie de Phil Knight, L'Art de vaincre.
Oui, et pas franchement, je ne l'ai pas lu, mais
tu le lis comme un roman policier, quoi. C'est dingue, le mec, il a fait Nike, et le nombre de revers qui se prend, le truc, il s'accroche, il construit cette marque extraordinaire quand même de Nike.
Ouais.
Et le bouquin qu'il a écrit pour ses enfants et ses petits-enfants pour qu'ils savent ce qu'il a vécu est absolument génial.
Oui, pareil, tout le monde me dit que c'est vraiment...
J'ai adoré.
C'est dément. Mmh.
Ouais.
Donc, l'art de la victoire, hein, c'est ça,
l'art
je crois.
L'art de vaincre.
L'art de vaincre, de Phil Knight. Ouais. Parfait. Très bien. Une dernière question. Si vous aviez quelque chose à refaire, que feriez-vous différemment? Rien,
je ferais un quatrième enfant.
Bah, il est peut-être encore temps, je ne sais pas. Un quatrième enfant. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Sarah pour votre temps.
Avec plaisir.
Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et puis vraiment félicitations pour tout ce que
merci.
Vous faites. Si on veut vous retrouver à titre personnel et puis évidemment aussi toutes vos activités, donc on va sur le site puisque je comprends que le digital est maintenant à fond.
Bah, oui.
Donc on va sur le site Maison Sarah Lavoine.
Ouais.
Si jamais on est intéressé évidemment par de la création d'architecture d'intérieur, le studio de création Sarah Lavoine.
Ouais, j'ai des bouquins, on a fait des bouquins, on a fait plein
c'est
de trucs.
Ça.
Voilà, donc.
Et à titre personnel, vous êtes peut-être sur LinkedIn.
Ouais.
LinkedIn a priori c'est le plus intéressant.
Ouais, je réponds
Instagram,
tout le temps. Instagram, LinkedIn, ouais, je suis très.
Super.
Je suis très facile d'accès.
Vous êtes très facile d'accès, c'est vrai, je confirme. Merci beaucoup Sarah.
Avec plaisir.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment vraiment n'hésitez pas et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.